Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. En première instance, il avait été condamné à 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Le procès en appel de Jérôme Cahuzac a débuté aujourd'hui. C'est en grande partie lui qui, après avoir menti sur ses avoirs à l'étranger avant de reconnaître les faits, est à l'origine de nombreuses nouveautés en matière de délinquance financière, création du parquet financier, de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Autant de nouveautés qui ont permis l'ouverture de nouvelles enquêtes, notamment celle sur François Fillon. L'exécutif annonce de nouvelles mesures et notamment la publication des noms des fraudeurs. Tout cela fait-il progresser la lutte contre la fraude fiscale? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, 2 invités nous ont rejoints dans ce studio. Émilie Cariou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée La République En Marche de la Meuse, vice-présidente de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Et auparavant, vous étiez spécialiste de fiscalité internationale. Et Éric Halt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes magistrat, vice-président de l'Association de lutte contre la corruption Anticor. Je le disais, des progrès manifestes ont été effectués ces dernières années, notamment dans le monde politique. Je vais vérifier tout simplement avec vous, Émilie Cariou, si c'est d'abord votre sentiment.
Ah oui, c'est mon sentiment. Disons qu'on a une loi qui, à l'issue de l'affaire Cahuzac, comme vous l'avez mentionné, une loi de lutte contre la fraude et la délinquance financière a été adoptée en 2013, qui a mis en place notamment le parquet national financier, qui a mis en place un certain nombre d'obligations de transparence, notamment des élus, mais aussi un certain nombre de transmissions obligatoires entre la justice et les administrations, des droits de communication qui n'existaient pas, qui ont été créés. Ça a été acté. Maintenant, il faut que tout ça monte en puissance. Et je vous avoue que, à l'occasion des travaux que nous réalisons aujourd'hui sur la procédure pénale fiscale à l'Assemblée nationale, on peut se rendre compte que tous les rapports qui avaient été prévus dans cette loi ne sont pas forcément publiés. Donc, on voit que le démarrage est un peu laborieux.
Oui, il faut lancer la machine. Éric Halt, vous êtes d'accord avec cette analyse? Vous aussi, il y a du progrès, mais peut-être pas suffisamment.
Absolument. La création du parquet national financier a permis d'accélérer un certain nombre de procédures, d'avoir de l'expertise en ce domaine. Je pense aussi que des initiatives courageuses ont été prises, que peut-être l'affaire Fillon n'aurait pas été instruite avec autant de rapidité dans un cadre normal. Mais il y a des paradoxes. Par exemple, le parquet national financier n'est pas compétent en matière de fraude fiscale. Donc je suis avec beaucoup d'attention les auditions de la mission parlementaire, parce que ceci devrait évoluer. Je note aussi que le parquet national financier, certes, le gouvernement ne s'immisce pas dans le cours des affaires, mais il est toujours subordonné au garde des Sceaux. Donc la question se pose de savoir si des soupçons qui peuvent naître parfois, s'il ne faut pas mettre un terme à ces soupçons en faisant évoluer le statut du parquet, en lui donnant des conditions de nomination qui lui permettent de garantir son indépendance.
C'est l'éternelle question de l'indépendance de la justice, et c'est vrai que c'est lié à notre débat de ce soir. Il y a eu pendant plusieurs années une cellule de régularisation qui a été mise en place au ministère des Finances, à Bercy, où grosso modo les gens qui avaient des avoirs à l'étranger pouvaient venir essayer de les réintégrer, et moyennant un redressement fiscal qui aurait été moins élevé que s'ils avaient été pris sur le fait, eh bien, pouvaient payer et régulariser leur situation. 32 milliards d'euros ont été réintégrés dans le calcul par cette cellule. 7,8 milliards d'euros ont été récupérés. Et cette cellule, c'était prévu, elle a fermé le 31 décembre 2017, Émilie Cariou. Est-ce qu'il fallait vraiment la fermer? Est-ce qu'on n'aurait pas pu prolonger sa durée de vie?
À vrai dire, les missions de cette cellule, en tous les cas sur le fait de pouvoir appréhender des sommes qui partent à l'étranger, les réimposer en France, l'administration fiscale peut le faire aussi. C'était des membres de l'administration fiscale qui avaient été placés dans cette cellule. À la base, quand Christian Eckert avait lancé la cellule, il avait clairement mentionné que c'était temporaire, que ça durerait 2 ans. Donc on a laissé là pendant 2 ans le temps aux personnes de rapatrier leurs fonds, sans pénalisation des dossiers. C'était surtout ça qui était intéressant. C'était pas trop les remises de droits plus que des remises de pénalités qui étaient proposées. Et maintenant, on dit, bon, bah voilà, vous avez eu 2 ans, maintenant, on rentre vraiment dans le droit commun, avec toutes les pénalités qui iront avec, sachant que, bon, les personnels, ils sont réaffectés dans les services, ils disparaissent pas, donc on a les services de gestion, les services de recouvrement, et que, d'autre part, entrent en puissance aussi les échanges automatiques de données dont on ne disposait pas avant.
Avec
et c'est
pays,
ça qui change.
Les autres pays européens exactement. Et du monde entier d'ailleurs. Absolument.
Voilà.
Absolument. Est-ce que cette cellule de régularisation, ça a été une espèce de sas, Eric Halt, pour passer d'une façon de s'arranger, je dirais, au droit commun qui sera un peu plus dur cette fois-ci?
Disons, c'était un régime d'exception. Mmh. Et l'exception n'a pas vocation à perdurer, par définition. Et donc maintenant, on n'a plus besoin de ce régime, d'autant plus qu'il y aura une montée en puissance en 2018 de ces échanges automatiques d'informations sur les avoirs à l'étranger de citoyens français. C'est un modèle que connaissent les États-Unis depuis 4 ou 5 ans.
La loi FACTA.
Exactement. Donc l'Europe est un peu en retard, mais ça se mettra en place à partir de 2018.
Alors, vous parliez tout à l'heure du parquet national financier. Il y a 480 procédures qui ont été lancées ou qui sont en cours. 1 milliard 200 millions d'euros ont été récupérés. Quand vous dites, Émilie Cariou, qu'il faut le mettre en place, que le démarrage est un petit peu lent, ça veut dire que vous espérez que ça aille beaucoup plus loin que ça ou
Je parle aussi de tout ce qui est, oui. Toutes les autres mesures qui étaient contenues dans la loi de 2013, notamment sur les échanges d'informations et le suivi des échanges entre la justice et l'administration fiscale, par exemple. Aujourd'hui, vous saviez qu'on est en train de se pencher sur un sujet qui est très épineux, qu'on appelle le verrou de Bercy, qui traite de la procédure pénale fiscale. Aujourd'hui, pour pouvoir ouvrir une plainte pour fraude fiscale, on a un monopole du ministère du Budget qui passe par une commission des infractions fiscales et donc qui présente des dossiers pour porter plainte. Le juge ne peut pas s'autosaisir des plaintes pour fraude fiscale. Donc là, on voit qu'on a encore beaucoup de choses à déverrouiller. Mais si déjà on savait concrètement ce qu'il advient lorsqu'un juge transmet des informations à l'administration fiscale, ça pourrait aussi nous montrer en toute transparence que les éléments du juge sont réellement suivis des faits et traités par l'administration fiscale. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Mmh. On ne sait pas ce qui se passe. On n'a aucune statistique de ça. Ce n'est pas bien suivi. Donc voilà, si vous voulez, on approfondira le sujet du verrou de Bercy.
Oui.
Mais
oui, on
voit que si déjà les mesures de transparence qui étaient prévues dans la loi de 2013 étaient pleinement suivies des faits, on serait plus à l'aise avec cette procédure-là.
Alors le verrou de Bercy, ce que disait Émilie Cariou à l'instant, c'est que une fois que un juge, et vous êtes magistrat, Eric Halt, se lance dans des recherches sur des affaires de fraude fiscale qu'il les transmet au ministère des Finances, on ne sait pas trop ce que ça devient. Le verrou de Bercy, vous l'avez dit, on va le réexpliquer, c'est le fait qu'il n'y a que l'administration fiscale qui a le droit d'ouvrir des procédures de fraude.
Le juge ne va jamais enquêter directement sur un... Le parquet ne prendra jamais d'initiative pour découvrir de la fraude fiscale. Éventuellement, il peut se saisir d'affaires de blanchiment de fraude fiscale, mais pas sur la fraude fiscale. Et si, au cours d'une enquête, par exemple sur une escroquerie, on découvre de la fraude fiscale qu'on ne peut pas requalifier en blanchiment, parce que le blanchiment, ça suppose quand même des manœuvres, eh bien, effectivement, c'est Bercy qui va décider au terme d'une procédure qui est pour l'instant pas extraordinairement transparente.
Oui, c'est une sorte de trou noir, de boîte noire, le ministère des Finances, dans ces cas-là.
Ce n'est pas tout à fait une boîte noire, mais c'est vrai qu'il y a une part d'opacité, et donc, chaque fois qu'il y a de l'opacité, il y a aussi une part de soupçon sur des déterminants qui seraient plus politique, qui permettrait à certains de transiger plus facilement que d'autres.
Alors, Émilie Cariou, vous êtes députée de la majorité, donc ce changement, ce verrou de Bercy, ça dépend de vous et de vos amis députés. Qu'est-ce que vous allez
Alors là, il y a un certain nombre de choses qui arrivent là dans le paysage. Hein. En tous les cas, pour ce qui est du verrou, nous avons un amendement du Sénat avait été adopté l'été dernier dans la loi sur la transparence de la vie publique qu'on appelle loi de confiance qui visait justement à ouvrir des possibilités aux juges de porter plainte pour fraude fiscale lorsqu'ils découvrent des faits de fraude incidemment dans une affaire. Donc ce qu'on a décidé de faire à l'époque, c'est de lancer une mission d'information sur cette procédure là pour mettre à jour vraiment ce qui se passe où on et de proposer des solutions, alors peut-être des solutions d'ouverture, on verra, mais en tous les cas de mettre en place une procédure alternative, parce qu'il ne suffit pas simplement de mettre à bas le système actuel sans prévoir quelque chose qui soit bien sécurisé au niveau notamment du calcul de l'impôt, etc. Parce qu'il ne faut pas affaiblir la procédure fiscale, c'est-à-dire celle qui conduit à chiffrer un impôt, à dater un impôt, parce que sinon le juge il n'aura pas de quoi poursuivre. Mais bien évidemment, le but de cette mission, c'est de voir comment on peut améliorer la procédure pour fraude fiscale, donner plus de marge de manœuvre au juge, juge tout en sécurisant l'impôt.
Est-ce qu'il faut rendre tout ça public, Eric Halt ?
Rendre cela public,
c'est-à-dire que le juge fasse une demande à Bercy et que la réponse soit rendue publique.
Je pense qu'il faut faire entrer la lutte contre la fraude fiscale dans le droit commun et les fraudeurs fiscaux qu'ils soient traités comme des délinquants ordinaires. Alors ensuite, comment on va le faire techniquement ? Effectivement, il y a plusieurs solutions qui sont possibles, mais je pense que la logique, c'est qu'il n'y ait plus de sort particulier réservé aux fraudeurs fiscaux.
Alors la fraude fiscale estimée constitue un manque à gagner, et je vais donner une fourchette volontairement large, de 40 à 80 milliards d'euros chaque année pour la France. Par définition, c'est difficile d'estimer l'impact des mesures déjà prises, mais est-ce que ces mesures, prises depuis la loi de 2013 notamment, est-ce qu'on peut estimer qu'elles ont fait baisser la fraude, Émilie Cariou ?
C'est difficile à dire, effectivement, parce que on connaît pas le... C'est assez compliqué. En plus, dans les 80 milliards, il y a aussi de l'optimisation fiscale, si vous voulez, dans les 80 milliards potentiels. Aujourd'hui, bon... moi, ce que je vois, c'est que sur les plaintes sur fraude fiscale, de toute façon, le nombre de dossiers déposés depuis des années et des années... Enfin, moi, je le connais depuis 20 ans, ce chiffre-là, c'est 2000 plaintes pour fraude fiscale par an. Donc, on voit que on est toujours à 1000. Depuis la loi de 2013, il n'y a pas plus de 1000. Donc, pourquoi est-ce qu'on tombe toujours sur 1000 ? Vous voyez que l'objet même de ce verrou, le fait d'arriver à un chiffre complètement arbitraire de plaintes pour fraude tous les ans, en soi, on se rend bien compte que c'est artificiel. Donc, vous voyez, ça n'a pas fait augmenter, en tous les cas, le nombre de poursuites.
C'est une question, peut-être, aussi de moyens alloués à la lutte contre la fraude fiscale à Bercy, ou il y a des services qui sont dimensionnés pour 1000 plaintes par an?
Très certainement, et ça se passe en amont de la commission des infractions fiscales.
Le nombre de fonctionnaires concernés a diminué depuis 5 ans. J'ajoute aussi que le parquet financier était prévu pour comprendre au minimum 22 magistrats au départ, il en comprend aujourd'hui 18, et que les officiers de police judiciaire spécialisés de l'OCLIF, donc l'office de lutte contre la corruption et la grande délinquance financière, ces policiers n'ont jamais atteint le nombre de 100. Je pense qu'il y a là quelques millions à investir en personnel qui pourraient permettre de rapporter quelques milliards peut-être.
Oui, c'est un rapport, un investissement et de bénéfices qui pourrait être intéressant. Bon, vous avez l'air d'être tous les deux d'accord pour dire qu'il faut sans doute aller plus loin dans les moyens de la lutte. Dans quelle direction on pourrait aller selon vous, Émilie Cariou ?
Alors, vous savez que Gérald Darmanin a annoncé une loi sur la fraude fiscale.
Secrétaire d'État aux comptes publics et à l'action publique.
Voilà. Tout à fait. Donc, dans cette loi, il y aura un certain nombre de mesures qui me paraissent, qui seront sûrement intéressantes pour renforcer les moyens de la lutte contre la fraude. Notamment, on parle de la création d'une police fiscale. Alors, je pense effectivement qu'il faut renforcer les effectifs. Est-ce que cette police fiscale, elle doit renforcer la BNRDF qui existe déjà aujourd'hui côté ministère de l'Intérieur ? Ou est-ce qu'elle doit renforcer les effectifs de Bercy et de placer les deux modèles existent dans le monde, les deux modèles existent également. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des personnes qui soient habilitées, donc officiers de police judiciaire, et qui en même temps aient les compétences fiscales, ce qui aujourd'hui n'existe pas. Alors, on a quelques membres de l'administration fiscale qui sont détachés dans la police judiciaire. Ces effectifs sont trop peu nombreux. Donc déjà, ça, c'est une mesure phare. Et après, il y a d'autres sujets, comme par exemple la publication des noms des personnes, alors certes, qui font l'objet de plaintes pour fraude, mais aussi celles qui font l'objet de certaines pénalités administratives. Ce qui, là, serait vraiment une nouveauté, puisque là, on lèverait le secret fiscal.
Alors, on va en parler, mais ce qui ressort de ce que vous me dites, là, c'est que, manifestement, entre la justice et l'administration fiscale, ça fait plusieurs fois que vous me le répétez sur différents sujets, il y a un problème de communication important, Eric Halt.
Oui, parce que la fraude fiscale est déterminée, c'est le ministère qui détermine les affaires qui sont poursuivies. Donc, ça ne présente pas d'intérêt pour le parquet de construire une accusation en ce domaine, et les juges savent bien que les affaires dont ils sont saisis sont pas forcément les affaires les plus importantes, qui parfois ont donné lieu à transactions, mais ce sont les affaires, disons souvent, enfin moi j'ai, pour avoir moi-même siégé dans ce type de formation, je sais que ce sont souvent des affaires de petits commerçants un petit peu obsédés par l'idée de ne pas payer l'impôt, et pas du tout par les grands fraudeurs. Donc il y a une culture qui doit évoluer en matière judiciaire, et cette culture ne pourra évoluer qu'à partir du moment où nous serons saisis des vraies fraudes, en tout cas d'un nombre important de vraies fraudes, de grandes fraudes.
Et de grande ampleur. Alors donc, c'est ce que disait Émilie Cariou il y a un instant, cette idée de publier le nom et les sanctions qui sont prises contre les gens qui se rendent coupables de fraude fiscale, ça vient d'une pratique américaine qui s'appelle le « name and shame ». Est-ce que c'est une bonne solution, selon vous, Eric?
Non, je ne pense pas que ce soit une bonne solution que de jouer au petit concours Lépine de qu'est-ce qui va être pertinent pour lutter contre la fraude fiscale. Moi, je dis, entrons dans le droit commun. Entrons dans le droit commun, donc ça veut dire effectivement la prison, mais ça veut dire aussi, moi, je ne serais pas choqué qu'on permette à un fraudeur fiscal de moyenne ampleur d'avoir un travail d'intérêt général, par exemple. Moi, ça ne me choquerait pas. Ces listes, pour les fraudeurs fiscaux comme pour les autres délinquants, ont beaucoup d'effets pervers et je ne pense pas que ce soit la solution.
Parce que finalement, en fait, c'est peut-être déjà le cas. On connaît le nom de ceux qui soit font de la fraude fiscale, soit font de l'optimisation fiscale, contournent les lois fiscales. On va évidemment parler des GAFA, les Google, Apple, Facebook, Amazon. On rajoute Netflix depuis quelques temps. Et finalement, ils continuent parce que c'est légal.
Justement, on n'est pas du tout dans la fraude fiscale. Ouais. Donc ça, c'est un autre énorme chantier qui a démarré depuis plusieurs années.
Parce qu'on est quand même
dans un état de droit. Ouais, et donc là, ils sont dans l'application pleine et entière des conventions internationales qui permettent des doubles non-impositions aujourd'hui. Et c'est tout le travail, l'énorme chantier qu'a lancé l'OCDE depuis 2012 maintenant. Donc on travaille ce dossier-là à l'OCDE, d'une part, à l'Union européenne, d'autre part. Mais ça, c'est un chantier qui est vraiment essentiel. Parce que là, je peux vous dire qu'il y a des centaines de milliards à récupérer.
Absolument.
Pour les pays de l'OCDE, au bas mot. Et sans compter que derrière, on a aussi des effets en ricochet sur le développement des pays en voie de développement.
Oui.
Donc ça, c'est le vrai, vrai, vrai nerf de la guerre. Mmh. C'est la lutte contre l'optimisation fiscale. Alors, au-delà de la lutte contre la fraude.
Alors, je suis d'accord.
Vous disiez, oui, Eric Alt, c'est là que se trouve la clé.
Mais en plus, c'est une lutte qui doit se construire sur un plan européen. Je pense que c'est pas normal qu'il y ait une Europe avec une concurrence fiscale agressive et déloyale, et qu'il faut effectivement construire sur un plan européen la divulgation des schémas d'optimisation fiscale, le reporting public pays par pays pour savoir ce que font les entreprises dans des pays où elles n'ont pas forcément beaucoup de personnel, mais où elles localisent beaucoup de bénéfices, qu'on connaisse les bénéficiaires réels de sociétés écrans, des choses qui parfois ont été censurées par le Conseil constitutionnel, mais qui reviendront utilement par la voie européenne.
Émilie Cariou, ça doit se traiter d'abord, on parlait de l'OCDE, ce qui est un groupe très large, ça doit se traiter d'abord au niveau européen. Le problème, comme le disait Eric Alt, c'est la concurrence fiscale entre les 27, citons des noms, l'Irlande, le Luxembourg.
Ouais. Là, je pense qu'on est à un moment donné où c'est plus acceptable d'avoir ces États qu'on appelle les États tunnels au sein de l'Europe. Je veux dire, il faut vraiment maintenant qu'on soit une Europe unie, d'autant plus qu'on a une réforme fiscale américaine en cours, et que si on n'est pas unis avec un système fiscal digne de ce nom, le fisc américain aura tous les moyens de siphonner les résultats de nos boîtes industrielles européennes et des filiales américaines si on ne démontre pas qu'on est dans un système fiscal cohérent. Donc là, maintenant, il n'est plus du tout temps d'avoir des dissonances au sein de l'Europe et d'avoir des États qui siphonnent les recettes fiscales des Européens.
Je suis tout à fait d'accord, c'est un enjeu majeur de souveraineté. Je veux dire, si nous n'agissons pas en ce domaine, nous bradons notre souveraineté. On n'appliquera plus que la souveraineté fiscale sur ceux qui seront localisés sur le territoire national.
Alors, une toute dernière question, il nous reste quelques secondes. Le niveau de l'imposition, est-ce que ce n'est pas un problème? La loi fiscale de Donald Trump permet à Apple de rapatrier des bénéfices contre une baisse de ses impôts.
Alors, vous savez que là, on va baisser le taux d'impôt sur les sociétés à 25%. Ouais. On va être au taux finalement américain parce que Trump baisse à 21%, plus les taxes des États fédérés, on atteint à peu près le niveau d'imposition. Je pense que là, justement, ce qu'on a fait, c'est on a baissé le taux d'imposition. On ne peut plus dire qu'on est dans un État où on est surimposé.
Voilà. Merci à vous, Émilie Cariou. Merci à vous également, Eric Alt. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret et Déborah Lepage à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Nicolas Benita. Vous pouvez nous retrouver et nous podcaster sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, et sur les principales plateformes mobiles, notamment avec l'appli RFI Pure Radio, rubrique magazine. Prochain débat demain, même heure, même endroit. On parlera des lanceurs d'alerte. Bonjour chez vous.